Les sports.
On est déjà rendu au sport, Martin, et se joint à nous M. Jérémy Filosa. Comment ça va, Jérémy?
Ah, ça va très bien, ça va très bien.
Oui, ça va bien en couple également, parce que les gens sont encore en état de choc. D'ailleurs, merci à tous nos auditeurs et auditrices qui attendaient pour participer, pour nous dire, après un an de pandémie, ce qui un peu commence à leur tomber sur les nerfs un petit peu avec le conjoint et la conjointe. Mais Rita, après 61 ans de vie commune, a tout résumé. Tout résumé. Alors, tout le monde se range derrière Rita.
OK, je m'excuse, Jay, tu vas peut-être m'en vouloir, mais bon, ça me fait trop rire. Okay. Jérémy Filosa a une des histoires qui me fait le plus rire de couple. Sais-tu qu'est-ce qu'il m'aurait déjà raconté qu'il fait quand que, c'est pas sa conjointe actuelle, c'est son ex-conjointe, fait quelque chose qu'il aime pas. Mmh. Il appelle sa mère.
Sa mère?
La mère de sa conjointe.
Ah, pas sa mère à lui.
Non, puis il la dénonce. Puis elle appelle sa fille, « Tu peux pas faire ça! » Puis Jérémy me disait tout le temps avec fierté. Moi, j'envoie ça dans le cours de ma belle-mère, puis elle parle à sa fille, « Ça, tu peux pas faire ça! » Et ça m'a toujours fait très rire.
Mais ça, ouais, Jérémy...
Ben, c'est comme, c'est ça, quand elle venait à la maison, et puis je faisais la vaisselle, et là, elle parlait en grec à sa fille, puis je savais exactement ce qu'elle lui disait. Elle lui disait, « Tu peux pas laisser ton mari laver les assiettes, ça n'a pas de bon sens, comprends-tu?
Hey. »
Puis moi, je faisais semblant de pas comprendre. T'sais.
Ça, là, Tommy, autrement dit, mettre sa belle-mère de son bord.
Oh oui.
Ah, ben elle faisait elle-même. Moi, je disais rien, puis ça me dérangeait pas de faire la vaisselle, mais elle trouvait que ça avait pas de bon sens. Donc, j'entendais déjà, juste dans sa voix, dans le ton de sa voix, qu'elle était en train d'expliquer à sa fille que ça va pas de bon sens, qu'elle laissait son mari laver les assiettes, que ça allait mal finir.
Bon, voilà. Alors parlant de mal finir, écoutez, oui. Dans la même semaine, messieurs, on a perdu deux coachs.
Oui.
Claude Julien, oui. Et puis 48 heures plus tard, Thierry Henry. Et oui. Derrière ça, Jérémy, il y a des gens qui veulent avoir des explications.
Oui.
Il y a eu cette rumeur que Thierry Henry était sollicité pour devenir coach dans un grand club anglais, Bournemouth.
Oui. Oui.
Mais c'est pas ça qu'il a donné comme raison. Il a dit « J'ai vécu une année sur le plan personnel et familial très difficile. Oui. Il est temps que je revienne à la base. »
Oui. Ben écoute, je pense que ça, c'était un peu écrit dans le ciel. Moi, j'avais même écrit un texte sur le site du 98.5 au mois d'octobre dernier, indiquant que c'était une véritable possibilité que Thierry Henry ne revenait pas. J'avais même fait allusion à possiblement une équipe de deuxième division, comme dans le cas de Bournemouth, qui l'approcherait et que ça pourrait l'intéresser. Maintenant, du côté du CF Montréal, on a indiqué que il n'y avait pas eu d'approche, il n'y avait pas eu de contact avec cette organisation-là pour que Thierry Henry ait entraîné là-bas. Mais en même temps, les gars, on va se le dire, les gars, les filles, ça peut pas être une coïncidence que le moment où on a commencé à entendre justement les bruits de coulisses que Thierry Henry allait possiblement quitter Montréal, que le nom de cette organisation-là soit attaché à l'histoire et qu'il n'y ait rien en arrière de ça. Je veux dire, c'est impossible. Je veux dire, c'est arrivé pratiquement en même temps. Donc, si c'est pas Thierry Henry qui parle directement à l'équipe, ben c'est peut-être ses agents, peut-être qu'il a déjà contacté sa firme qui le représente en disant ben commencez à faire des téléphones parce que moi je vais quitter du côté de Montréal, donc essayez de voir s'il y a des possibilités à droite et à gauche. Je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu là.
Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, moi je trouve ça très sympathique, le retour de ce bon vieux Laurent Simard,
ouais,
à Montréal.
Ouais, ça c'est une excellente nouvelle.
Lui il aime Montréal en tout cas.
Ben absolument. Ouais. Écoutez, vous connaissez l'histoire de Laurent Simard qui s'est installé ici à cause de sa fille qui avait besoin de certains traitements à cause d'une condition médicale. Et donc, pour lui, Montréal a beaucoup amélioré toutes les conditions de sa famille, les conditions de vie. Donc, lorsqu'il a quitté Montréal, on s'en souvient, il avait été, on va se le dire, entre guillemets, cavalièrement échangé à Los Angeles. Là, ben sa famille avait dû se déraciner, les traitements, les médecins, l'hôpital et tout ça. Donc, il avait dû quitter parce que lui n'avait pas de papier officiel pour demeurer ici. Et il nous a expliqué durant le point de presse cette semaine à quel point il est arrivé à Los Angeles déprimé. Et l'entraîneur Bob Bradley avait dû le ramasser à la petite cuillère parce qu'il n'en revenait pas qu'il quittait de cette façon-là Montréal et qu'il n'avait pas le contrôle sur sa destinée. Et il nous a expliqué dans le point de presse hier aussi que pour lui, il aurait aimé poursuivre en tant que joueur. Et il y a même eu des discussions avec l'organisation en ce sens. Finalement, on s'est entendu pour qu'il rejoigne l'équipe d'entraîneur comme assistant. Mais pour lui, c'était plus important de revenir à Montréal, près de sa famille, avec le club, peu importe le rôle, que d'assurer, par exemple, une saison de plus en tant que joueur.
Et de mettre de côté l'amertume qu'il peut avoir envers l'organisation qui ont fait, en guillemets, ce coup-là.
Ben, écoute, oui, sauf que on va se le dire, ceux qui étaient là à l'époque n'y sont plus. Tu sais, Kevin Gilmour n'était pas là à ce moment-là.
Le propriétaire est toujours là, toujours le même propriétaire.
Oui, même propriétaire, par contre. Ça, t'as raison de le mentionner, puis il a probablement dû ravaler le renseignement un peu. Il nous a dit hier que maintenant, tu sais, l'eau avait coulé sous les ponts, que sa famille était très, très heureuse parce que lui s'est installé en permanence à Brossard, donc ça va être facile pour lui de travailler à partir de maintenant. Il veut rester ici au Québec pour plusieurs années, mais Olivier Renard, je pense, a beaucoup aidé. Parce que Olivier Renard et Laurent Simon sont des anciens coéquipiers d'équipe nationale belge. Donc, ils se connaissaient déjà. Donc, je pense qu'Olivier Renard a facilité un peu le retour de Laurent Simon avec le CF Montréal. Et c'est un gars qui va ajouter assurément beaucoup de caractère dans ce vestiaire-là, parce qu'on sait que c'est pas un genre de gars qui a la langue dans sa poche, là.
Alors, Jérémy, tu prends l'antenne à midi, puis évidemment, évidemment, c'est incontournable. Il semble bien que ce soit Jake Allen qui sera devant le filet, confirmé. Martin. Ouais. Martin qui a écrit un texte très objectif. D'aucuns diraient, c'est épouvantable de dire ça de Carey Price. Non, il a cité des chiffres, c'est-à-dire, il a déposé des chiffres, hein, n'est-ce pas, sur Claude Julien.
Oui.
Bon, et puis là, évidemment, on a vu comment ça se déroule. On pourrait faire le même exercice, Jérémy, sur Carey Price.
Je peux-tu vous en donner un chiffre?
Non, regardez, son année 2014-2015, il a tout raflé.
Oui.
Le Hart, le Jennings, le Vezina.
Oui. Ouais,
2014-2015.
Oui, ça fait longtemps. Mais là, veux-tu t'en donner un chiffre?
Oui.
Moi, là, je suis Dominique Ducharme, là. Je dis à Carey Price, prépare-toi avec Stéphane Way, puis tu reviendras quand tu seras habillé en blanc. J'ai fait faire la recherche, il y a un monsieur qui... Non, vous riez, là. J'ai fait faire la recherche par un monsieur, je vais retrouver son nom, parce qu'il a fait une recherche exhaustive, ça a pris 2h30 de trouver la statistique. En 30 matchs avec des jambières rouges, parce que c'est pas la première fois que Carey Price essaie d'amener un équipement rouge à Montréal. Puis là, il y avait eu le débat, quoi, t'es en rouge, tu perds, etc. Il a dit, ça change rien, tout ça, puis il a fini par l'enlever. Carey Price, en 30 matchs, en rouge, 30 matchs pile, 6 victoires. Seulement. 16 défaites, 6 défaites à prolongation.
Est-ce que tu parles de l'uniforme ou de la couleur?
Des jambières rouges. Okay, et c'est connu, ce débat-là. C'est connu que la perception du joueur, le trou entre les jambes, les trous, on les voit beaucoup plus facilement avec les jambières jaunes fluo de Marc-André Fleury, les jambières rouges de Carey Price, etc. J'en parlais à mon émission On Jase avec, que j'anime avec Yannick Lévesque. Des joueurs actuels, des joueurs du passé m'appelaient pour me dire, Martin, t'as raison.
Ben, c'est sûr.
On le sait, non, en ta joie, 6 victoires.
Mais Jérémy, t'étais au courant de ça?
Matchs.
Non, mais écoute, ça fait plusieurs années qu'on parle du débat des fameuses jambières blanches. Veux pas, les gars, là, la bande là derrière, elle est quand même blanche,
ouais.
OK? Et les joueurs, souvent, n'ont pas le temps... Ben, la glace, c'est ça, exactement. Les joueurs, souvent, en montée, n'ont pas le temps de lever la tête et regarder exactement où sont les trous. Ils vont regarder avec le coin de l'œil et tout ça, et vont chercher les trous. On va se le dire, les gars, si tu regardes du coin de l'œil rapidement, puis tu as une fraction de seconde, si les jambières sont rouges, le trou, tu vas le voir beaucoup plus facilement que si les jambières sont blanches. Est-ce que ça explique les déboires de Carey Price?
Non, mais écoutez...
Je remercie Yannick G. qui a fait la recherche.
Yannick!
6, 16, 6 et 890 de pourcentage d'arrêt en rouge.
Ouais. J'ai mon voyage. Et Jérémy, j'ai également une autre suggestion. Ne jouez plus avec l'uniforme bleu du Canadien.
Ouais.
Ils sont pas capables de jouer en bleu.
Ils se reconnaissent pas sur la glace.
Ils se reconnaissent pas, ils font des passes à Toronto, aux Maple Leafs. Non, mais ça marche pas, le troisième chandail.
Ouais.
L'autre affaire, ramenez pas le poteau de barbier non plus, là.
Non, ça on en a parlé avec Ray la semaine passée.
On en a parlé avec Ray, là. Alors donc, écoutez, si c'était uniquement la couleur des jambières qui explique la baisse de régime de Carey.
Ah, c'est pas juste ça, mais 6 victoires en 30 matchs pour un gardien de but qui s'en va au temple de la renommée, je pense que ça parle.
Ouais. Wow. Mais écoutez, moi, j'en parlais hier dans le podcast Sortie de zone, les gars. Quand tu payes des joueurs pour le nom et non plus pour les performances, t'es dans le trouble.
OK. Alors donc, tu pourras l'aborder dans ton émission. Et également, je faisais remarquer à Martin Lemay, Jérémy, on n'est plus capable de voir les joueurs du Canadien tirer la rondelle dans les gradins et obtenir une pénalité comme celle de Shea Weber l'autre soir.
C'est la 7e fois déjà.
Ça fait 7 fois que les gars dégagent la rondelle et puis qu'elle se retrouve dans les gradins et c'est une pénalité automatique.
Ouais, ben souvent quand les joueurs vont utiliser la bande de cette façon-là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'option. Tu sais, donc ils se disent bon ben j'utilise la bande ou la baie vitrée et je dégage mon territoire. Ça veut dire que trop souvent on est refoulé dans notre territoire, on veut se débarrasser de la rondelle, on est sous pression et là ben on commet une erreur comme ça. Mais ça c'est des erreurs d'inattention. Ça veut dire que on n'a pas suffisamment d'options devant nous pour faire un bon jeu, un jeu qui a de l'allure.
Merci beaucoup Jérémy. Bonne émission.
Salut. Bye. Bye bye.
Il prend l'antenne à midi.
Ouais.